connaissez un peu la préoccupation qui est souvent la mienne en ce qui concerne la vie de l'Église, en ce qui concerne le travail dans l'Église, à savoir être une porte ouverte pour notre monde, pour être là pour gagner des âmes à Christ, travailler pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai relu un texte dernièrement, et c'est ça qui va un peu fonder ma prédication de ce matin. J'ai relu un texte que je connaissais pourtant, mais il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux, et je voulais vous partager cela ce matin. Et ça va rejoindre certaines choses qui restent dans mes préoccupations, en tout cas que j'aimerais partager. Alors, nous sommes dans un monde où il est vrai qu'il faut absolument que nous puissions nous démarquer, que nous marquions la différence. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle religion, on nous met tous dans le même bas. Parce qu'on parle aujourd'hui d'extrémisme djihadiste, musulman, enfin, je sais pas comment on va dire ça, islamique, parce que certains musulmans refusent qu'on dise que c'est islamique, ils préfèrent le mot djihadiste avec les guillemets pour dire que c'est vraiment pas nous, quoi. Hein, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'extrémisme au niveau du terrorisme, on nous dit qu'en substance, vous chrétiens, fermez la bouche. Vous n'avez rien à dire parce que les horreurs, vous en avez fait aussi. Alors, on arrive à une théorie selon laquelle toute religion est dangereuse. C'est dangereux une religion, parce qu'elle contient toujours une petite bombe qui va, tôt ou tard, exploser en forme de terrorisme. Vous voyez, c'est là que nous allons, avec certaines réflexions de certains laïcs notamment. Mais nous voulons marquer la différence et continuer à le faire, à marquer que notre façon à nous de vivre notre foi, ce n'est pas une démarche religieuse. C'est une démarche relationnelle entre Dieu et nous, Dieu et les hommes. Et que cette démarche ne s'inscrit pas du tout dans une logique qui serait celle qui va aboutir un jour à ce que nous mettions des bombes. Il est vrai, nous le regrettons, que dans l'histoire de la chrétienté, dans l'histoire du christianisme, il y a eu des dégâts. Il y a eu des choses abominables. Mais là, encore une fois, c'était le fait des gens qui se sont complètement écartés de la pensée biblique. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il eu une réforme si ce que les gens là faisaient était conforme à la Bible? S'il y a eu réforme, c'est parce que des hommes qui vivaient dans la chrétienté et des responsables se sont dit « Ouh, on s'est beaucoup trop écarté ». Des premiers enseignements fondés sur la Bible. Il faut retourner là-bas. Comprenez? Alors, nous voulons vraiment ce matin encore nous recentrer sur cette dimension. Et comment se recentrer sur cette dimension-là? Évidemment, en découvrant, encore une fois de plus, notre Seigneur Jésus-Christ dans son ministère, dans les aspects qui concernent son ministère. C'est un peu ce qu'on va faire à travers ce texte que nous allons lire, prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être ces hommes et ces femmes à ta plus grande gloire. Des gens qui veulent qu'une seule chose, que à travers leur vie, leur témoignage, ta gloire se manifeste. Seigneur, aide-nous à être de ces hommes-là, de ces femmes-là. Mais pour cela, nous avons surtout besoin de regarder à notre modèle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à porter nos regards sur Jésus et à l'imiter, afin que, en faisant ce que lui a fait, nous soyons en phase avec ce que toi tu veux que nous fassions. Fais-nous cette grâce, ouvre nos yeux tandis que nous lisons ce texte, enrichis-nous, pas seulement avec ce qui est apporté, mais aussi par ce que tu peux aussi apporter par le Saint-Esprit. Fais-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 2, versets 13 à 22. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui, il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage, il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus ayant entendu cela leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Je voudrais, à travers ces textes, qui n'ont peut-être en apparence pas de lien les uns les autres, je voudrais mettre un lien en soulignant certains aspects qui caractérisent le ministère de Jésus. Et en voyant ces aspects, à travers ces aspects que je vais relever dans le ministère de Jésus, nous allons voir aussi un peu vers quoi nous pouvons orienter nous-mêmes notre façon de vivre, de croire et de marcher avec Dieu. Alors, dans ce texte, comme dans la plupart, vous voyez que Jésus manifeste sa volonté d'aller toujours vers les exclus de la société juive, hein, ce que les juifs religieux considèrent et traitent comme des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Comme toujours, chaque fois que Jésus va vers ses exclus, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours ces juifs religieux qui sont derrière lui, qui passent au crible son action et qui profitent pour le critiquer. Et dans cet épisode, au début, nous voyons que Jésus qui est en train de passer, nous sommes en Galilée, il voit ce Lévi qui est contrôleur fiscal, inspecteur fiscal, là, et il le voit assis dans son bureau et il l'appelle. Vous savez que, vous le savez déjà, de toute façon, on l'a déjà suffisamment dit, le fait de travailler dans l'administration fiscale romaine était un acte de trahison. Alors, en fait, il travaillait d'abord pour le roi Antipas. Le roi Antipas, c'est donc le roi Hérode qui était roi de la Galilée. Vous savez que les Romains, pour bien diviser les Juifs et permettre qu'ils ne puissent pas politiquement les chasser, avoir le dessus sur eux, avaient conçu un système où ils ont divisé les provinces de la Palestine en petits royaumes entre les mains des Hérodes. Et vous savez pour la petite histoire que les Hérodes, c'est pire que les Juifs en quelque sorte, parce que d'origine, la famille d'Hérode n'est pas directement une famille juive. Et les juifs le savent. Donc, ça les énerve d'avoir déjà un roi qui n'est même pas un juif. Et ça les énerve déjà. Et en plus, ce roi travaille pour le compte des Romains. Et il est là pour œuvrer pour l'installation de la domination romaine en Palestine. Et Lévi est en quelque sorte un fonctionnaire qui travaille pour le roi Hérode. Et donc, il est au compte des Romains. Et donc, quelque part, les Juifs considèrent ça comme un acte de trahison. Un acte de trahison par rapport à l'identité juive, à la fierté juive, à la nationalité juive. De plus, Vous savez que les collecteurs d'impôts étaient des gens malhonnêtes. Ils étaient réputés malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'ils s'enrichissaient de l'argent qu'ils volaient aux citoyens. Quand il fallait aller recruter, récolter 50, je sais pas comment on appelle, deniers, je sais pas moi, peu importe, ben eux, ils mettaient peut-être 70 deniers. Et comme ça, ils rendaient les 50 et les 20, ils mettaient dans leur poche. Ça se passe encore comme ça, hein? Vous n'êtes pas d'accord? Peut-être pas en Belgique, mais je connais des coins où ça se passe comme ça. Vous êtes commerçant, vous les voyez débarquer 5 fois par jour. Pas une fois par jour, mais 5 fois par jour, sans papier, sans rien, donne-moi l'argent. Et il te faut un faux papier, etc. Ben voilà. Mais tu sais bien qu'ils sont occupés à te voler, parce que c'est l'argent qu'ils vont mettre dans leur propre poche. Un voleur, un traître et un voleur. C'est ça que Lévi est aux yeux des Juifs. C'est un pécheur, un type condamnable. Et pourtant, alors qu'il est condamnable, Jésus ne le voit pas comme condamné d'avance. Jésus ne le voit pas comme cela. Jésus voit en lui potentiellement une âme à sauver. Quelqu'un que Dieu aime et que Dieu veut toucher. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'effectivement cette personne va accepter, va se lever, va suivre Jésus. Et vous connaissez qui est cet homme-là. C'est Matthieu, l'auteur de l'évangile selon Matthieu. Si Jésus ne l'avait pas appelé, on n'aurait peut-être pas cet évangile-là. Vous savez ce que ça veut dire, Matthieu? Je vais demander à Matthieu lui-même. Matthieu! Lui, il exige qu'on écrive ça avec un seul T. Les autres écrivent ça avec deux T. Ça, c'est leur problème. Et Matthieu, lui, c'est un T. C'est la signature de Matthieu. Eh bien, Matthieu, ça veut dire don de Dieu. Don de Dieu. Un cadeau de Dieu. Magnifique, hein? Ben, tu l'étais déjà avant même que je te l'informe. C'est bien. Jésus va l'appeler. Lévi va tout quitter. Lévi va venir. Et à cause de l'acte que Jésus pose, à cause de ce geste-là, Jésus va faire l'objet de critiques. Ensuite, Jésus va répondre à l'invitation d'aller manger chez cet homme. Et là, se rencontrent toutes sortes de personnes, des gens de mauvaise vie. Et là, alors, les pharisiens, c'est ça les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, vont se dire, mais attends, comment ça se fait que votre maître mange et boit avec des gens pareils? Je vais relever là le premier aspect dans le ministère de Jésus-Christ. Jésus va commencer une réponse. Et il va répondre. Il va répondre au verset 17. Tu peux remettre, Christophe? Au verset 17. Jésus ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Premier aspect dans le ministère de Jésus. Jésus considère les amis de Lévi attablés autour de lui comme des patients, comme des malades, des gens à soigner, des gens qui ont besoin d'être guéris. Et nous connaissons la maladie dont il souffre, c'est bien sûr le péché. C'est le recouvrement de la santé spirituelle par la paix avec Dieu. Donc, là il y a un aspect premier qu'on découvre du ministère de Jésus. Il est venu comme un médecin. Il est venu pour soigner. Il a un public qu'il recherche. Il ne veut pas perdre le temps avec ceux qui se croient justes, ceux qui se croient bien. Mais il veut se concentrer sur ceux qui ont besoin du salut, ceux qui ont besoin d'être guéris, d'être soignés. Et Jésus connaît son métier, il connaît très bien son métier. Et je disais aussi, je relevais aussi que ce qui est intéressant avec Jésus en tant que médecin, c'est qu'il n'y a pas d'honoraire. Vous ne payez pas. Vous allez chez lui, vous êtes soigné, vous êtes guéri, tout va bien, et puis hop, vous partez, vous ne payez pas un rond. De plus, non seulement il guérit, je veux dire, physiquement, mais il guérit l'âme. Il guérit l'âme, il guérit le cœur. De sorte qu'on revient non seulement bien dans sa peau, mais bien dans son cœur, dans son âme. Jésus est vraiment celui qui vient apporter le salut. Mais pour que ce salut soit possible, il faut que le malade se reconnaisse malade. Imaginez un médecin qui voit quelqu'un qui est tout gringalé, tout maigrichon, qui a l'air mal en point, et qui dit, « Monsieur, je suis médecin, est-ce que je peux vous soigner ?» Sa personne dit, « Oh, vous êtes malade ou quoi ? Je vous ai dit que j'ai besoin d'un médecin, moi ? » Qu'est-ce que le médecin fait ? « Ah, bon, ça va, ok, excusez-moi. » N'est-ce pas ? Celui qui est malade, c'est celui qui doit d'abord, lui-même par analyse personnelle, reconnaître que ça ne va pas, et dire, « J'ai besoin d'un médecin. J'ai besoin. » Et à ce moment-là, on fait venir le médecin. Et le médecin peut alors faire son travail. Vous voyez la différence ? D'un côté, les juifs religieux, condamnation, jugement, enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas ce que la loi demande. De l'autre côté, Jésus, bras ouverts, prêt à aider, à restaurer, à guérir. D'un côté, des religieux, de l'autre côté, le Seigneur qui veut une relation. C'est en cela que je disais que nous ne sommes pas des religieux. Et un point de différence entre nous, les chrétiens, et les autres, entre guillemets, religieux, c'est que nous ne sommes pas des religieux. Nous ne faisons pas la religion. Nous voulons amener les gens vers notre Seigneur pour qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés. Ça, c'est notre plan. Ça, c'est notre projet. La religion finit effectivement par se tordre, se compliquer, devenir une exigence en termes de loi. Tu dois faire comme ça, on fait comme ça et on ne fait pas autrement. La religion finit par s'inscrire dans une tradition où il est question de faire les choses comme on l'a toujours fait, respecter des rites, respecter des pratiques, des cérémonies, des rituels. C'est ça une religion. Mais Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu nous appelle à une préoccupation qui est celle de nous occuper de l'âme des personnes. Ce matin, j'aimerais que cet premier aspect nous amène d'abord à une première chose, évidemment, à rendre gloire à Dieu, à bénir le Seigneur, à bénir le Seigneur Jésus-Christ, dès que il est venu parmi nous. Il est venu pour accomplir une œuvre. Et nous savons que cette œuvre a été parfaite. C'est une œuvre qui a abouti à l'accomplissement total, à la satisfaction de Dieu, puisque Dieu l'a ressuscité de mort, plus que cela, Dieu l'a glorifié en l'élevant et en l'amenant au ciel. Nous savons que cette œuvre a été accomplie puisque nous sommes, nous les témoins, nous qui avons connu Jésus, parce que nos vies vraiment, véritablement ont changé. Alors, nous pouvons vraiment chaque jour de notre vie dire merci Seigneur pour le salut. Merci pour ton œuvre accomplie à la croix. Merci pour ce que tu as fait. Vous savez, parfois on oublie de faire des choses pareilles. Parfois, on vit comme c'était évident. Je suis chrétien, c'est évident. Et alors, fais quoi d'autre ? Dire merci, pourquoi ? Pourquoi dire merci ? La reconnaissance est quelque chose qui nous permet de pouvoir nous relancer encore. Garder notre position d'humilité. Garder notre position de quelqu'un qui dit, c'est pas moi, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. Deuxième chose que ce texte nous invite aussi, c'est nous-mêmes, notre propre regard sur ce monde. Sur notre propre regard. Si nous comprenons ce que Jésus a voulu faire dans son œuvre, nous savons alors que nous sommes appelés à veiller aussi, à travailler dans ce sens-là. Nous sommes appelés aussi à agir, à venir au secours les gens perdus de notre société. C'est notre travail. Nous sommes aussi appelés à nous-mêmes à venir aussi vers Jésus, plein de compassion. On est appelé à venir vers lui aussi pour présenter aussi nos propres limites, nos propres difficultés personnelles. Nous sommes aussi appelés à reconnaître nos faiblesses quand nous les avons et à présenter cela à Dieu, présenter cela à Jésus pour qu'il nous aide à sortir de nos faiblesses, à guérir de nos infirmités, de nos incapacités. Et la dynamique est différente. Dieu merci. Le sauveur qui vient pour être sauvé. Et moi, pécheur, mais converti, qui vient pour recevoir l'aide de Dieu. Ce sont des deux démarches différentes. Mais c'est toujours le même Dieu Tout-Puissant qui peut agir aussi pour m'aider et me sortir de là. Ce texte nous invite donc à la suite de Jésus d'exercer aussi un ministère de compassion, d'aider aussi les gens. Bien sûr, en étant humble pour nous dire, notre travail est de prodiguer des soins mineurs. On n'est pas Dieu. Nous prodiguons des soins mineurs en attendant que Dieu prodigue les soins qui guérissent véritablement, qui apportent véritablement la guérison. Deuxième aspect de la comparaison, verset 19. En fait, moi je suis dans le texte d'Éphésiens, alors je suis occupé à chercher chaque fois où se trouve le texte. Alors Christophe, verset 19. Alors, verset 19. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. » Je voudrais relever un deuxième aspect dans le ministère de Jésus. Voilà que les disciples de Jésus, dans une période où tout le monde est occupé à jeûner, les disciples des pharisiens jeûnent, les autres jeûnent aussi, et les disciples de Jésus, eux, ne jeûnent pas. Scandale chez les juifs. La loi, elle est faite pour quoi? C'est pour qu'on la respecte, quoi. Et vous ne respectez pas la loi. Or, que dit la Torah? Elle dit que celui qui ne respecte pas la loi, qui transgresse la loi, il commet quoi? Un péché. Donc, il commet un péché. Alors, Messire Jésus, vous qui dites que, hein, dites-nous, alors, c'est quoi cette affaire-là? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus. C'est une réponse très intéressante. Jésus fait allusion à une fête de mariage. Il fait allusion au fait que, voilà, là, il y a un mariage. Il y a un époux. Il y a une fête de mariage. On parle de mariage. Waouh! Vous imaginez un peu? Aujourd'hui, si c'est au Parlement, on pose une question directe comme ça à quelqu'un et il commence à répondre avec des images pareilles. On va lui dire, tais-toi, t'es hors sujet, allez. Mais en fait, Jésus ne dit pas les choses par hasard. Il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il veut dire. Jésus amène les pharisiens, les chefs religieux à comprendre, à réaliser une chose. Il leur dit, vous savez, nous vivons dans la joie. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de joie. C'est une œuvre de liberté. C'est une œuvre où il n'est pas question de vivre d'une manière constipée, stressée, une épée sur la tête. C'est une œuvre où on vit de la liberté que nous avons reçue. En fait, la perplexité des disciples de Jean ou de Jean-Baptiste ou d'autres ou des pharisiens vient du fait que le jeûne est un acte obligatoire, je vous l'ai déjà dit, et c'est un acte légal. Et en plus, les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent parce que Jean-Baptiste est en prison. Okay? Les pharisiens, ils jeûnent parce que vous savez qu'ils aimaient bien que tout le monde sache qu'ils jeûnent. Hein, ils se mettent la cendre, ils se font sale et tout ça. Ah, oh, ils jeûnent. On sait que ça, c'est un religieux, voilà. C'est un qui prie, là. Voyez? Mais, si le jeûne dans l'Ancien Testament se faisait par rapport à un deuil ou dans un contexte de crainte de jugement, etc., etc., nous savons que, en réalité, ce n'est pas la réalité. Parce que, il suffit de lire Ésaïe 58, je vous invite à le lire chez vous à la maison, vous allez voir tout de suite que Dieu remet les choses en place. Par rapport à la conception du jeûne, Dieu remet les choses en place avec Ésaïe 58. Il explique que c'est pas ça du tout. Enfin, bon, je ferme cette parenthèse parce qu'on parle de jeûne, mais c'est pas le sujet direct. En fait, derrière le discours de Jésus, derrière ce que Jésus dit, il y a véritablement un changement de religion, un changement de cadre spirituel. On n'est plus dans le judaïsme, on rentre dans le christianisme. Je vais m'expliquer. Derrière cette question de l'image de l'époux, la question de la fête qui est derrière, il y a l'idée que le judaïsme est une religion triste. Pourquoi ? Parce qu'elle impose des règles auxquelles il n'est pas toujours possible d'obéir. Elle impose des règles qui sont tellement contraignantes sur les gens que ça met des poids. Jésus disait aux pharisiens, malheur à vous parce que vous êtes en train de mettre du poids sur le peuple. Là, le judaïsme, c'est une religion qui a justement cette tendance à imposer par la charge de la loi. Et donc à rendre malheureux les gens. Les gens sont tristes. Mais Jésus dit, voilà que avec moi se profile un autre cadre spirituel, une autre structure spirituelle. Ce cadre spirituel, le christianisme, est un cadre où on célèbre. C'est un cadre de célébration. C'est un cadre de fête, de joie, parce que le salut est possible. L'image du mariage, d'ailleurs, n'est pas une image innocente. Cela témoigne que le ministère de Jésus en tant qu'époux que l'on fait lors de mariage est un ministère de salut, justement. Un ministère axé sur le projet de Dieu de faire de nous des personnes intimes. Des personnes qui allons vivre dans l'intimité avec lui. C'est ce qu'est le mariage entre un homme et une femme. Il vient devenir notre intime, celui qui vient partager notre vie, celui qui vient pour la diriger, la conduire, mais comme une personne aimante, comme un responsable. Il vient agir avec nous comme cela est requis au mari de le faire à l'égard de sa femme. Et donc, ce texte nous invite à regarder le christianisme comme une véritable célébration. Célébration à la gloire de Dieu, dans les réjouissances, dans l'action de grâce, dans la bonne humeur, dans la joyeuse espérance. Les disciples ne jeûnent pas parce qu'ils sont en fête, il y a l'époux qui est là. Ils sont pas sous la contrainte de la loi, ils prennent leur liberté de vivre autour de l'époux, de vivre heureux, de vivre tout simplement et de ne pas être enfermés dans une prison de la loi. Cet engagement-là, cet aspect de ministère de Jésus est une réalité à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui aussi à vivre. Comment vivons-nous notre christianisme? Est-ce à une célébration, à un hymne à la gloire de Dieu, ou bien c'est vraiment un truc qui nous pèse, quoi? C'est dur, quoi. Troisième aspect, je vais aller vite avec cet aspect-là. Texte clé, versets 21-22. Christophe, merci. 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Je vais être plus bref avec cet aspect ici. Jésus va mettre en avant le fait que On ne peut pas mélanger quelque chose d'ancien avec quelque chose de nouveau. On ne peut pas prendre un système ancien qui est épuisé et le mettre avec un système nouveau. On ne peut pas mélanger le judaïsme et le christianisme. On ne peut pas mélanger les principes. J'irai plus loin si je dois rejoindre la deuxième dimension avec le jeûne. On ne peut pas comprendre le jeûne de la même manière. Le jeûne fait par les juifs et le jeûne des chrétiens. On ne peut pas vivre la spiritualité de la même façon. Pourquoi? Parce que ce que Jésus apporte est nouveau. Il est nouveau. Le ministère de Jésus est comparé à un vin nouveau, c'est-à-dire à une nouvelle boisson différente de l'ancienne. Et cette boisson ne peut pas être mise dans des vieilles bouteilles, car elle est frais éclatée. De même, quand on fait les vêtements, on fait le raccommodage, c'est la même chose aussi. Et cette comparaison montre que l'œuvre de Jésus est une œuvre nouvelle, qui n'est pas là pour réparer, arranger les travers du judaïsme. Ok? Mais qui est là pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est super important. Parce que nous ne nous rendons pas compte. Comment vivons-nous notre vie chrétienne? Combien de chrétiens n'y a-t-il pas qui lisent l'Ancien Testament et qui calent avec les questions de l'Ancien Testament? Qui calent avec ça? C'est surtout les histoires avec le manger. On peut manger cachère, est-ce qu'on doit manger ceci, on ne doit pas manger cela, et alors le sabbat, on doit le respecter ou pas, pourquoi nous on ne respecte pas le sabbat, etc., etc. Vous savez que c'est des protestants aussi, donc c'est nos amis aussi, les adventistes, c'est à ça qu'ils se sont heurtés, et ils ont voulu, comment dirais-je, travailler, en quelque sorte. Parce que c'est des questions importantes. Mais ce texte nous aide à trancher le débat. Nous sommes dans la nouveauté de vie. Ce qui est ancien a vieilli. Il est fini. Nous commençons une étape nouvelle. Nous vivons selon ce que Dieu nous demande de vivre à travers notamment le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Vous le savez, c'est Jésus qui l'a dit. L'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, explique comment Jésus introduit une alliance nouvelle. Et que cette alliance est éminemment supérieure à l'ancienne alliance. Elle brise son assise sur l'ancienne alliance, mais c'est autre chose. Ça devient autre chose. Le ministère de Jésus, donc, est un ministère qui refuse les compromis, un ministère exclusif et intégral. Et donc, les chrétiens qui vivent selon la nouveauté de vie sont des personnes qui non seulement doivent marquer la différence par le fait que c'est une autre vie qu'ils vivent, ils doivent non seulement marquer la différence, mais ils doivent aussi être remarquables dans la façon, dans leur nouveauté de vie. Ne pas avoir peur d'être différent des autres. Beaucoup de chrétiens, surtout les jeunes, ont du mal avec ça parce que nous sommes dans une société où, quand tu es différent, on te rejette. Quand tu ne fais pas comme les autres, quand tu ne penses pas comme les autres, on te rejette. Au boulot, c'est la même chose. Dans la société, c'est la même chose. Mais c'est notre appel. Parce que notre religion, elle est neuve. Pas neuve dans le sens des années, puisqu'il y a quand même déjà plus de 2000 ans. Non, mais neuve dans le sens que c'est un renouvellement par rapport au judaïsme. Un renouvellement total. Un autre chose. C'est comme si vous étiez dans un avion qui roule à la vitesse normale et tout d'un coup, vous rentrez dans un avion qui roule à la vitesse du son. C'est pas la même chose. C'est juste ce que je dis là. À la vitesse de lumière, je sais plus quoi. Mathieu, aide-moi. Vitesse de lumière ou vitesse de son? Je sais pas comment on dit. Tu connais pas. Très bien. Il est comme moi. Ça va, ça me console. Bon. Enfin, vous comprenez la différence. Avec des avions qui roulent à des très très grandes vitesses et des avions qui roulent à des vitesses, entre guillemets, normales. Nous sommes dans deux choses différentes. Et vous savez quoi? Vivre de cette façon-là est importante. Pourquoi? Parce que nous devons éviter l'œcuménisme. Nous devons éviter le syncrétisme. Parce que, vous savez quoi? Aujourd'hui, le monde travaille à mettre en place une religion mondiale. Et cette religion mondiale, ça sera la religion dans laquelle on va tout accepter, tout mélanger. Voyez-vous? Mais notre rôle à nous est de marquer la différence et de vivre dans une différence qui permette aux gens d'entendre notre témoignage et de venir à Christ. Trois aspects, je vais terminer, conclusion. Trois aspects dans le ministère de Jésus que j'ai voulu mettre en avant. Le côté où il se présente comme le médecin qui vient guérir et qui vient guérir les malades. Le côté où Jésus parle parle du fait qu'il est l'époux qui est là, et parce qu'il est là, l'exigence légale ne s'accomplit pas. Les disciples, dans la présence de l'époux, sont libres de la loi, entre guillemets. Et puis, troisième chose, un ministère nouveau, comme le vin nouveau. Un ministère qui rompt avec le vin ancien, le vin du judaïsme. Appel à ce que nous vivions notre christianisme dans la différence, dans l'exclusivité et dans la fierté. Prions. Seigneur, merci pour ce que tu peux nous donner à comprendre et à vivre dans un texte. Et merci pour le fait que le peu qui a été partagé peut être multiplié, peut être développé encore plus par le Saint-Esprit. Accorde que, oui, ta parole reste pour nous vraiment une haute référence dans notre vie, dans nos choix, dans nos décisions. Et que, Seigneur, cette parole nous transforme de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Merci d'être ce Dieu qui nous accompagne dans notre quotidien. Merci d'être ce Dieu qui nous a protégés dans le drame dont nous avons entendu parler ce week-end. Merci d'être ce Dieu qui veut que nous marquions notre différence par rapport à la nouvelle façon dont on pense la religion et bien manifester que nous ne sommes pas une religion, même si malheureusement pour nous, on doit nous situer dans les religions. Seigneur, aide-nous à être ces chrétiens qui avons la compassion des autres, qui vivons notre travail dans la célébration, dans la joie, et qui comprenons que nous sommes là dans une nouveauté de vie qui a à être manifestée dans la différence, dans l'exclusivité. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen.